Chapitre 25. L'enseigne au-dessus de l'hôpital brillait de mille feux et évoquait plutôt un casino qu'un établissement de soins. Assise au volant de son pick-up à l'arrêt, Nevea tira une bouffée sur sa cigarette. C'était l'heure du changement de service et elle observait le flot des infirmiers, médecins et aides-soignants qui se déversaient dans le parking. Elle recrachait la fumée quand elle vit Marion Carter quitter la bâtisse. Sans perdre un instant, elle descendit de son véhicule, écrasa son mégot et marcha droit vers l'autre femme, qui l'attendait à côté de sa voiture.
« Mon Dieu, ce que tu lui ressembles !»
s'exclama Marion en refermant les pans de son manteau. C'était la première semaine d'octobre, et après un mois de septembre particulièrement frais, les températures s'étaient radoucies. Nevea ne portait qu'une doudoune légère par-dessus son sweatshirt à l'effigie de l'université de Prosser State.
« Merci d'avoir accepté de me parler, » dit-elle. « Je me doute que vous êtes très occupé.
Si je n'avais pas ma soirée loto, je t'aurais proposé qu'on aille boire un verre.
Mais dis-moi, ma chérie, qu'est-ce que tu veux savoir sur Bonita ?»
Nevea songea que, si Marion connaissait sa mère, elle devait avoir au moins 60 ans. Pourtant, n'étaient que les quelques reflets argentés dans ses cheveux, on lui en aurait donné 35.
Est-ce qu'elle a déjà parlé de mon père, pour évoquer des violences conjugales par exemple? Est-ce qu'il a pu la menacer?
Marion fronça les sourcils.
Oh, ma chérie, ta mère aimait ton père.
Et vu ce qu'elle me disait de lui, il était évident que c'était réciproque.
Il n'a jamais levé la main sur elle.
Marion marqua une pause, se tourna vers l'entrée de l'hôpital avant de reporter son attention sur Nevea.
Mais je crois qu'il aimait encore plus son crématorium. Il travaillait matin, midi et soir. Bonita était là pour le soutenir, mais je crains qu'au fil du temps, ils aient fini par se perdre. Combien de fois elle nous a raconté qu'elle avait passé la nuit à s'occuper de la comptabilité, à aider ton père en période de rush, à nettoyer les fours. Et ensuite, elle poussait un long soupir et nous avouait qu'elle n'avait même pas eu droit à un « merci ». Elle était blessée.
Mais donc, elle n'avait pas peur de lui, même quand il l'a surprise avec Lawrence.
Marion pinça les lèvres. Je crois surtout qu'elle était déçue qu'il ne se batte pas plus pour elle. Écoute, ma chérie, quoi qu'il soit arrivé à ta maman, je suis convaincue que ton papa n'y est pour rien.
Ah oui?
Et qu'est-ce qui lui est arrivé, à votre avis?
Nevea avait parlé d'un ton plus sec qu'elle ne l'aurait voulu. Mais elle ne chercha pas à s'excuser. D'une pression du pouce sur sa clé de voiture, Marion déverrouilla la fermeture centralisée.
« Je ne sais pas, ma chérie, mais j'espère qu'elle est en paix », conclut-elle avant d'ouvrir sa portière.
Nevea descendait Lillehammer Street en direction du Candy's. Le mercredi, c'était soirée déjantée, et toutes les boissons étaient à moitié prix. Son téléphone vibra dans sa poche. Elle le sortit en tenant son volant d'une main et vit qu'il s'agissait d'un texto de Chauncey. « T'es où? Je suis dispo. » Nevea tapota une rapide réponse. « Pas moi. » Elle se gara sur le parking du Candy's. Il n'y avait pas encore grand monde, mais il n'était que 21h30. Elle entra dans le bar et s'assit au comptoir, où elle commanda un gin jus de fruits qu'elle commença à siroter à la paille. Une nouvelle vibration de son portable. « Ça veut dire quoi ?»«
Ça veut dire que je suis pas dispo. »
La réponse de Chauncey fut immédiate. « Ok. » Nevea rempocha son téléphone.
« Qu'est-ce que tu fabriques ici, frangine ?»
s'exclama Dante. Il prit place sur le tabouret pivotant voisin et fit une rotation complète sur lui-même. À côté de lui se tenaient un blanc et une noire, avec un double chignon afro.
« Je m'autorise un verre parce que je viens de me taper une journée de boulot de 9 heures et que j'ai dû me débrouiller toute seule, » répliqua Nevea.
« Ça te pose un problème ?»«
Ah mince, je suis désolé, Nev. J'ai aidé mon pote Tug avec un truc. Tug, je te présente ma frangine, Nevea. Et elle, c'est Reynel, sa copine. »«
Bonsoir, » fit Nevea, avec un manque d'enthousiasme évident.
« On va faire un billard, »
annonça Tug. Et il se mêla à la foule avec Reynel. Dante refit une rotation sur son tabouret.
Nevea ne lui demanda pas s'il était défoncé. C'était flagrant. « Bon, Frangine, je vais leur mettre la pâtée, d'accord ?»«
Est-ce que t'as croisé Rome aujourd'hui ?»«
Il traîne pas mal avec Jay en ce moment, »
dit Dante, comme si cela répondait à la question.
« Dante, qu'est-ce que tu te rappelles de ce jour-là »«
Quel jour ?»«
Tu vois très bien de quoi je parle. »«
Je sais pas, Nev. J'ai pris mon vélo, j'ai fait un basket avec Charlie et Stéphane. Je suis rentré à la maison, et maman, non. »
Nevea retira la paille de son verre et but une grande gorgée.
« J'ai oublié le son de sa voix, »
confessa Dante, la gorge serrée.
« Quoi ?»« Sa voix, je m'en souviens pas. Dès que je croise ton visage, c'est comme si elle était en face de moi, mais sa voix, il m'en reste rien. Je suis vraiment une merde comme fils. »
« Non, Dante, c'est nos parents qui n'ont pas été à la hauteur.
Hey, »« Hé, arrête, dis pas ça !»«
Pourquoi ?»«
C'est la vérité pourtant. Maman trompait papa, papa a sombré dans l'alcool, on a dû se débrouiller seul. »«
Arrête, putain !»
répéta Dante.
« Il s'est mis à boire parce qu'elle lui manquait, mais il s'est quand même occupé de nous. Il s'est pas remarié. D'ailleurs, je suis quasiment sûr qu'il a jamais rebaisé de sa vie. Alors tu retires ce que t'as dit !»
Il prit le verre de Nevea et le vida d'un trait.
« Continuez à le placer sur un piédestal si ça vous arrange, mais moi c'est terminé !»
lâcha Nevea, et elle jeta un billet de $5 sur le comptoir.
« Même boire un coup tranquille, j'ai pas le droit !»
Elle se leva de son tabouret et se dirigea vers la porte.
« Attends, Nev, je suis désolé !»
bredouilla Dante en la rattrapant.
« Laisse-moi te payer un verre !»
Aucun des deux ne remarqua les deux latinos qui entraient dans le bar au moment où ils en sortaient. Le Candies n'était pas un club réservé aux Noirs, mais ceux-ci constituaient malgré tout le gros de la clientèle. C'était aussi un lieu où les Bibibi et leurs associés aimaient se retrouver, quand ils ne traînaient pas au Kingdom. Nevea marchait à grands pas vers son pick-up, son frère sur ses talons.
« Nevea, je te demande pardon, reviens boire un coup !» « Vous arrêtez pas de prendre sa défense alors qu'il l'a tué. Il l'a assassiné, putain. Je le sais, tu le sais, et Roman le sait. Ça fait 20 ans qu'on se ment. 20 ans qu'il nous ment. Ça suffit. »
« Qu'est-ce que tu racontes? Papa n'a pas tué maman. Tu dis n'importe quoi. »
Avant que l'un ou l'autre ait pu prononcer un mot de plus, la porte du Candice s'ouvrit à la volée et une foule paniquée se déversa à l'extérieur en poussant des hurlements. Beaucoup étaient en sang. Certains s'effondrèrent au bout de quelques pas. Des plaies atroces au niveau du cou ou du dos. Dante vit Tug traverser la rue en courant, Reynel dans les bras. Elle avait une énorme entaille à l'épaule, de laquelle un flot rouge ininterrompu s'écoulait sur la chaussée. Alors que les clients affolés se dispersaient, deux latinos quittèrent le club, brandissant chacun une machette maculée de sang.
« Tripulación de la Ciudad Fantasma !»
hurla l'un des deux. Ils contournèrent le Candies pour disparaître dans la nuit.
« Mon Dieu !»
murmura Nevea, qui sortit son téléphone de sa poche pour appeler les secours.
« Je vais voir Reynel et Tug !»
annonça Dante, mais sa sœur le retint par le bras.
« Hors de question ! Imagine s'ils reviennent ! Donc non, tu restes avec moi jusqu'à l'arrivée de la police !»« C'est mes amis !»
protesta Dante, en cherchant à se dégager. Mais Nevea le tenait fermement.
« Et toi, tu es mon frère, alors tu attends. Quand les flics seront là, tu pourras y aller. »
« Jefferson la ruine, »
maugréa Dante.
« C'est là qu'on habite. Jefferson la putain de ruine. »
De l'autre côté de la rue, il entendait Tug prononcer le nom de Reynel en gémissant, tandis que des sirènes résonnaient au loin comme des clairons au début d'une bataille. La police de Jefferson Run était venue en force. Plusieurs agents se chargeaient de bloquer la rue afin que les inspecteurs puissent interroger ceux qui n'avaient pas eu le temps de s'enfuir avant l'arrivée des voitures de patrouille. D'un bout à l'autre du trottoir, des rubalises jaunes formaient des guirlandes qui flottaient dans la brise. Sur le parking, Nevea et Dante livraient leurs témoignages, alors que de très nombreuses ambulances emmenaient les blessés vers l'hôpital. Du coin de l'œil, Nevea aperçut Chauncey qui parlait à Tug, le pote de son frère, pendant que son collègue discutait avec un des barmen. Il ne regardait pas dans sa direction et elle se sentit soulagée.
Un jour, elle avait lu dans un livre que le contraire de l'amour n'était pas la haine, mais l'indifférence. Elle n'avait jamais aimé Chauncey, mais elle ne le détestait pas non plus. À vrai dire, elle n'était même pas indifférente. Elle n'était plus rien. C'était fini. Elle alluma une cigarette et tira une longue bouffée qui lui remplit les poumons, puis expira par les narines, tandis que le policier qui l'avait interrogé terminait de recueillir le témoignage de Dante. « Merde !» pensa-t-elle lorsqu'elle vit Chauncey approcher. Il avait un sourire aux lèvres, mais il ne lui adressa pas la parole, se dirigeant droit vers Dante. « J'ai l'impression que depuis quelque temps, chaque fois que quelqu'un se fait tuer, soit toi, soit ton frère, soit tous les deux, être dans les parages. T'aurais une explication ?» demanda l'inspecteur. « On habite à Jefferson Run ?» répondit Dante avec un haussement d'épaule. « Au fait, t'as eu des nouvelles de Getty ?»« Non, bien sûr que non. Il est mort, pas vrai ?» À la réflexion, je crois que tu vas m'accompagner au poste pour me raconter exactement ce qui se trame entre les BBB et le Ghost & Co. Tu pourras commencer par me dire ce qui est arrivé à Getty et à sa copine. Ensuite, on parlera de la relation que ton frère et toi entretenez avec Torrent Gilchrist. Et il saisit Dante par le col. Pourquoi tu vas emmener mon frère au poste alors que tu as ici plusieurs dizaines de témoins qui ont vu ce qui s'est passé? S'offusqua Nevea. Eux aussi, tu comptes les embarquer? Chauncey la fusilla du regard, mais elle s'en moquait. Dante est un suspect dans les disparitions de John Paul Mathias Getty et Cassidy Gutierrez. J'ai également l'intention d'interpeller ton autre frère. Mais peut-être que tu veux te joindre à eux? Et peut-être que tu veux que je passe un coup de fil à ta femme? Rétorqua Nevea, en lui crachant sa fumée au visage. Chauncey ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Au bout de quelques secondes, le temps d'encaisser la pique, il se tourna vers l'agent qui avait recueilli les témoignages de Dante et Nevea. « Laisse-nous, s'il te plaît. » Sans discuter, l'homme partit retrouver ses collègues à l'entrée du Candies. « Fais très attention à ce que tu dis, Nevea. Ça m'embêterait que tu te fasses embarquer pour une infraction routière quelconque et que tu doives passer 24 heures en cellule parce que le dossier s'est perdu. Je te promets qu'avant de monter dans le fourgon, je ferai une capture d'écran de tous les textos que tu m'as envoyés et je les transférerai à ta femme. Tous, sans exception. Mon frère était avec moi sur ce parking au moment où tout le monde est sorti du club en courant. Il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé là-dedans. Et toi, tu veux le coffrer, pourquoi? Parce qu'il a eu le malheur de se retrouver par hasard à proximité d'une fusillade, d'une attaque à la machette, d'une bagarre de rue ou je ne sais quoi encore? Comme s'il se passait pas 5 minutes sans qu'il y ait un meurtre ou une agression dans cette putain de ville? J'ai surtout l'impression que tu cherches un bouc émissaire pour cacher le fait que la police est incompétente. Alors vas-y, coffre-le. Le temps qu'il arrive au poste, ta femme aura balancé toutes tes affaires dans le jardin. Et j'espère qu'elle y aura foutu le feu. Chauncey serrait les dents si fort que sa mâchoire semblait sur le point de se déboîter. T'es sûr que tu veux la jouer comme ça? Cracha-t-il en lâchant enfin le col de Dante. Nevea écrasa sa cigarette et se tourna vers son frère. « Allez, viens, on rentre. » Dante prit place sur le siège passager du pick-up. « Si tu penses que tu peux menacer, t'as intérêt à avoir des yeux derrière la tête, sale conne !» gronda Chauncey. « Penser à te menacer ?» répéta Nevea. « Je pense déjà même plus à toi. » Elle s'installa au volant et ferma sa portière. Alors qu'elle quittait le parking, elle vit l'inspecteur dans son rétroviseur, les poings serrés le long du corps. « C'est là ta place, » songea-t-elle, « dans mon rétro. »« Quel connard celui-là » maugréa Dante. « Tu l'as dit. T'étais pas obligé de faire ça. »« Si. Et je l'ai pas fait que pour toi. Ça me démangeait depuis un moment. »« De toute façon, il y a que Roman et moi qui avons le droit de dire du mal de toi. » Parce que nous, on l'a mérité. Dante gloussa dans son siège. Nevea le regarda, il la regarda, et en même temps, ils éclatèrent de rire.